Polyplaisir des Utopies, votre émission Radio Campus relative aux amours pluriels, réalisée et présentée par Polyphile du site polyamour.be. C'est ici que la magie des amours multiples nourrit son imaginaire, c'est ici qu'elle s'offre aux rencontres métissées. À l'ombre du jour, le micro entre les dents, le cœur nomade, je parcours les berges à la rencontre des polyglottes de l'amour. Ce mois-ci, nous retrouvons Bob pour la deuxième partie de cet entretien.
Pour moi, le véritable amour est altruiste. Mmh. L'amour qui n'est que dans l'idée où finalement l'autre a besoin de moi et j'ai une satisfaction très narcissique de dire ben voilà, je suis indispensable, grâce à moi l'autre peut subsister et je lui apporte tout ce qu'il faut. Enfin, c'est pas de l'amour pour moi.
C'est
un besoin narcissique de se dire je suis indispensable et finalement l'autre est à mes crochets. Mm-hmm. Moi, ça m'intéresse pas. Enfin, il peut y avoir, enfin forcément, il y a toujours un moment, une petite fierté d'ego de se dire ben voilà, j'ai apporté ceci, j'ai apporté cela. Mm-hmm. Oui, c'est d'accord, mais c'est pas durable, on peut pas fonctionner, un couple ne peut pas fonctionner à long terme là-dessus, enfin, en tout cas pour moi. Donc moi j'ai besoin de ressentir que ma partenaire ne soit pas là par besoin, parce que ce besoin elle aurait pu le combler ailleurs, hein, c'est pas ça, mais qu'elle soit là par vrai choix. Mm-hmm. Et même chose pour moi. Mm-hmm. ou que ça soit financièrement, on gagne notre vie tous les deux, on n'a pas besoin l'un de l'autre. Finalement, on a, il n'y a plus de besoin. Si on est là, c'est par un vrai choix. Et pour moi, c'est beaucoup plus beau comme amour. On a atteint un degré de pureté parce que on est libéré de certaines contingences. Et le fait aussi d'avoir la chance, l'opportunité de rencontrer d'autres personnes. Mm-hmm. Avec qui j'ai développé des liens vraiment forts, des gens pour qui j'ai un amour, une affection, un respect, une estime qui sont énormes, que j'espère encore dans je sais pas moi 50 ans toujours côtoyer régulièrement, qu'on reste proche. Tous ces gens-là, le fait d'avoir côtoyé des personnes magnifiques. Et que je souhaite encore rester au quotidien avec mon épouse, pour moi, c'est aussi une marque d'amour. C'est de dire,
tu rechoisis.
Voilà, c'est un choix que je fais, que je refais. J'ai rencontré des tas de personnes vraiment, vraiment belles, vraiment splendides, que je souhaite continuer à côtoyer. Donc, j'ai vraiment envie de rester proche de ces personnes-là. Mais ça n'empêche pas que mon épouse reste importante pour moi, et c'est pas parce que j'ai côtoyé des gens magnifiques qu'elle disparaît, que du contraire.
C'est
donc pour moi il y a enfin cette idée majeure dans le polyamour qui est que une personne ne remplace pas l'autre, on n'exclut pas, on additionne, et le fait que mon épouse et moi on se connaît depuis des années, que ça n'empêche pas que c'est avec elle que j'ai envie de continuer à rester au quotidien, à poursuivre la famille, mais tout en gardant une liberté de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui m'apportent aussi des choses. Mais c'est que ça reste pour moi un lien qui a subi la plus importante des épreuves, qui est que j'ai envie de continuer à rester avec elle, parce que j'ai... Et ça, c'est en connaissance de cause.
Ça me fait penser d'ailleurs à tes enfants, je me dis, tiens, dans le fond, dans les valeurs que tu leur transmets à travers l'éducation, l'ouverture au monde, une série de choses que tu veux transmettre, est-ce que tu es tenté, ou est-ce que tu glisses une petite phrase ou l'autre qui ouvre un petit peu la porte, peut-être, à tes enfants aussi, vers une sorte de pluralité comme ça d'une vision de l'amour?
C'est une discussion que j'ai déjà eue, et j'avoue que ma réflexion n'est pas arrêtée à ce sujet-là. je reste encore en évolution. Bon, mes enfants sont encore relativement jeunes, et donc j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le degré de maturité pour pouvoir appréhender pleinement la question des amours pluriels. Donc je ne leur en parle pas. Donc je dirais que mon épouse et moi, on a toujours eu beaucoup d'amis d'amis. Donc ils ont l'habitude de voir que papa sort de son côté, maman sort parfois du sien, que on a des amis proches. Donc ça, il y a une sorte de d'habitude qui s'est faite, qu'on ait donc une certaine degré d'intimité avec d'autres personnes. Maintenant, parler d'amour, de compagne ou compagnon proche, ça on ne l'a pas fait.
Non, mais je pensais par exemple, tu sais, au travers des contes d'enfants, le prince charmant est là, il n'y en a qu'un. Enfin bon, dans tous les livres d'enfants, on voit ça. Est-ce que tu as envie de renforcer ça ou de dire à l'enfant tout doucement, tiens, tu sais, dans la vie, il y a quand même tout un potentiel large de possibilités.
Oui, non, effectivement, nous sommes relativement attentifs à ne pas les enfermer dans un modèle trop conventionnel, et donc de les ouvrir à d'autres valeurs. Mais ça se fait, je dirais, de façon indirecte, par
C'est
petites
ça.
touches, où effectivement, donc, si les hasards, le contexte fait qu'on a l'occasion d'apporter telle précision ou tel commentaire, on le fait. On est attentif à ne pas les enfermer dans quelque chose de trop fermé comme modèle, et de façon à ce qu'ils soient naturellement, je dirais, ouverts à d'autres options, que ça soit que ça soit l'homosexualité, que ça soit donc des couples non mariés, des couples ouverts, des choses comme ça. Donc de ne pas leur dire ça c'est pas bien, ça c'est pas. Mais donc ça se fait de manière, je dirais, plus diffuse,
C'est ça.
mais pour créer un terreau favorable, en tout cas, à d'autres façons d'être. Et puis, ben, ma foi, à eux après de voir vers où ils voudront aller, s'ouvrir comme ils le souhaitent. Maintenant, est-ce qu'un jour on leur dira, ben voilà, nous sommes polyamoureux, ou papa a tel ami, etc. Honnêtement, j'en sais rien. Donc ça, ce sera, je sais pas. On verra plus tard. Peut-être que c'est le hasard de la vie qui décidera pour nous, ou que ce sera quelque chose de décider, d'organiser, je sais pas. J'ai pas de décision à vraiment totalement arrêter à ce sujet-là, à ce stade-ci.
Alors, il y a aussi une petite notion qui me vient comme ça à l'esprit, parce que je trouve qu'on a bien balayé tout, on a fait un grand tour. Je me dis, tiens, dans le fond, toi et moi, je pense qu'on a beaucoup de respect pour les monogames qui s'en sortent et qui réussissent leur vie. Comment est-ce que toi, tu expliques que certains peuvent vraiment, dans la durée, s'inscrire dans aussi un véritable amour?
Ben effectivement, je ne suis pas dans l'idée que les monogames forcément se trompent, qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils sont aveuglés par un vieux système, machin. Donc j'ai le sentiment que il y a plusieurs façons possibles de vivre sa vie amoureuse, et à chacun de trouver le modèle qui lui convient. Donc, je crois sincèrement que le modèle polyamoureux est magnifique, mais ne convient pas forcément à tout le monde. Donc, enfin, sans jugement de valeur, hein. Mais donc, à chacun de vraiment sentir quel est le modèle qui lui plaît. Ça peut être le modèle monogame. Ça peut. Il y a plein. Aujourd'hui, on a la chance qu'il existe plusieurs modèles possibles qui sont, je dirais pas socialement accepté, mais en tout cas plus aussi ostracisé ou puni que par le passé. Et donc c'est un peu à chacun de réinventer le modèle qui lui convient. Et donc si certains sont bien un modèle monogame, ben, ma foi, c'est magnifique, pourquoi pas. Et je prends l'exemple de mes parents. Mes parents sont donc maintenant ils sont retraités, ils sont en couple que je sache monogame depuis toujours. J'ai l'impression depuis que je suis bébé que c'est un couple qui a toujours magnifiquement fonctionné. Ils ont enfin, ou alors ils ont réussi à masquer ça de manière extraordinaire, mais avec mes frères et sœurs, on a toujours l'impression qu'ils ont toujours été un couple aimant, respectueux, que ça se passe vraiment bien entre eux. Et donc j'ai l'impression qu'eux ont trouvé un modèle qui leur convenait bien, et je suis admiratif de la façon dont eux ont mené leur vie de couple. Et donc eux, ça leur convenait parfaitement, et donc pour moi parfait. Donc je ne vais pas pousser des couples qui sont épanouis dans le modèle monogame à forcément prendre des chemins de traverse qui ne leur conviendraient pas. Donc à chacun de voir ce qui lui convient.
D'autant plus qu'il y a aussi des polyamoureux qui ont des périodes monogames aussi.
Tout à fait. Mais effectivement, moi-même, je n'exclus pas. Enfin, je ne sais, honnêtement, on peut pas dire que je peux pas dire que je vais être polyamoureux jusqu'à la fin de mes jours. Donc, il peut y avoir des phases, et ça, à chacun de voir en fonction de son évolution personnelle. Donc, moi, je ne ferme aucune porte d'aucune sorte. Donc, c'est vraiment à chacun de voir. J'avais discuté avec quelqu'un, donc qui était assez actif dans le tantra. Qui elle considérait le polyamour comme une très bonne étape parmi d'autres de connaissance de soi-même, mais une étape. Et le voyait dire après pour arriver à l'étape supérieure, il fallait aller vers un approfondissement envers une seule personne. Bon, ça c'était son point de vue, hein, mais qui lui semblait difficile d'arriver entre guillemets, en s'éparpillant, entre les personnes, d'arriver à ce degré d'approfondissement qui était nécessaire pour passer le palier supérieur vers le. On appellerait ça l'éveil complet. Et donc, pour lui, c'était une étape. D'autres sont possibles, mais une étape importante, une étape très valable vers la connaissance de soi. Mais après, il fallait passer vers autre chose. Donc ça, c'était le point de vue respectable d'une personne par ailleurs de valeur. Mais donc, d'autres peuvent avoir d'autres points de vue par rapport à ça. Honnêtement, je peux pas dire dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans où j'en suis. Pour l'instant, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis vraiment, où j'ai le sentiment de me développer, d'être en réelle adéquation avec moi-même. Maintenant, après, on verra. Je sais pas. J'en fais pas un dogme. Donc, les gens qui ne sont pas favorable au polyamour, je dirais, pour moi, j'ai pas de souci avec ça. C'est très bien aussi. Je veux dire, je suis convaincu que c'est pas un modèle qui convient à tout le monde. Donc, si d'autres trouvent leur épanouissement dans autre chose, pour moi, c'est magnifique aussi. Donc, j'en fais pas des gens avec qui j'ai plus rien à dire. Au contraire, je suis heureux de confronter des points de vue différents. Parce que moi aussi, ça peut me remettre en question. Il est possible que j'arrive aussi dans une sorte de, je dirais, de pensée unique de polyamour. Et c'est souhaitable qu'il y ait des gens qui viennent remettre tout ça en cause, qu'il y ait un électrochoc en me disant eh, « Mon gars, tu t'endors sur tes certitudes, sur tes lauriers. » Et donc, c'est, je pense, bénéfique. Que régulièrement des gens viennent un peu bousculer tout ça pour qu'on puisse continuer à évoluer, soit en approfondissant dans la même direction, soit en évoluant doucement, parce que je pense enfin, tout ça est tellement vaste qu'il y a plein de choses encore à approfondir, et donc ça peut être dans d'autres directions et que je suis pas opposé à prendre, même plutôt prêt à prendre si on m'en convainc. Et donc, je trouve ça chouette de pouvoir oui, se remettre en question. Et j'ai l'impression, enfin, j'ai tellement le sentiment d'apprendre, enfin, d'être encore au milieu de l'apprentissage, qu'a priori, quand quelqu'un me dit mon gars, tu fais fausse route, ma première tentation n'est pas de lui dire va-t'en, mais plutôt d'avoir envie de l'écouter en disant tiens, est-ce qu'il peut m'apprendre un truc?
Mais là, je sens aussi comme toi cette richesse hein, dans notre petit mouvement là, naissant. Et donc, je voulais aussi t'interpeller, avoir un peu ton avis là-dessus, par exemple. Homme-femme, nous, on est deux hommes et dans le groupe, c'est plutôt une majorité hétérosexuelle, même s'il y a aussi de l'homosexuel. Mais moi, je suis surpris aussi de la sensibilité des hommes que je croise dans le mouvement. Et c'est vrai que moi, dans un héritage parental, enfin, surtout par rapport à mon papa, bon, ben, je le voyais, enfin, parce qu'il est décédé il n'y a pas si longtemps, mais comme quelqu'un d'un peu machiste malgré tout. Et donc, c'est des choses avec lesquelles j'ai eu un peu du mal. Et j'ai eu beaucoup de bonheur à voir ici dans le groupe polyamoureux, je pense, beaucoup d'hommes qui n'étaient pas, hein, qui n'étaient pas dans ce machisme, avec justement l'idée que un homme qui a plusieurs libertés sexuelles envers plusieurs femmes, généralement dans la société monogame traditionnelle, ça passe bien, hein, ce sera un don juan, il sera polygame éventuellement dans d'autres cultures, mais un homme qui accepte aussi que sa compagne ait d'autres relations, c'est quand même, je pense, ça fait appel à, peut-être au niveau archaïque, à des choses plus moins subtiles et qui sont de l'ordre du travail sur soi. Et donc moi je suis touché, j'ai beaucoup de respect pour les hommes qui sont parmi nous, comme si peut-être, mais peut-être que je me trompe en le disant, mais que chez les femmes, peut-être que ce serait de l'ordre d'être plus naturel, de partager, parce que l'homme est plus, la femme est plus centrée sur l'idée du partage. Enfin bon, ça c'est des valeurs qu'on peut vraiment... Moi j'ai cette petite idée-là, mais je conviens que c'est pas forcément... Je suis prêt à en parler avec d'autres personnes d'ailleurs, le cas chez tout le monde. Mais donc... Voilà, c'est juste une petite réflexion là-dessus. Est-ce que toi, ça t'a déjà un peu chatouillé aussi de parler de ça?
Oui, tout à fait. C'est une réflexion qui moi, m'a déjà interpellé et touché. Mmh. Où, effectivement, j'ai le sentiment que dans le polyamour, une bonne part des hommes présents sont... attentif à l'égalité homme-femme, donc au respect, à ce que il y ait une réelle réciprocité, et sont souvent aussi des gens qui ont des hommes qui ont une part féminine, une sensibilité un peu plus affirmée que dans la moyenne. Mmh. Et à quoi c'est dû, j'avoue, je ne sais pas trop. Donc je pense que donc quand on a fait une recherche plus importante sur soi-même, qu'on est arrivé à un certain accomplissement personnel entre guillemets, enfin on ne peut pas y arriver sans justement avoir développé cette part. Donc pour être complet, donc pour revenir à Paul Salomon, etc. Donc j'ai l'impression qu'il faut arriver à développer une part, pour les hommes en tout cas, cette part complémentaire qui leur permet d'atteindre donc cette fragilité. Donc c'est pour moi une des difficultés non négligeables. C'est, enfin, depuis toujours, quand on est gamin, on apprend aux garçons... Il ne faut pas pleurer, il faut savoir contrôler ses émotions, il faut se protéger de différentes choses. Et donc, finalement, on se blinde, on a une armure, on a des protections qui, finalement, d'un côté, nous protègent, c'est l'objectif, mais de l'autre, nous coupent aussi de pas mal de choses, d'émotions, de sensibilité. Et donc, c'est un réel travail d'arriver à enlever ses couches d'armure pour réaccéder à cette sensibilité, mais qui est quelque chose de dangereux, de pas évident, parce qu'en enlevant ces couches, on accède à la sensibilité, mais on remet aussi à nu cette fragilité, et donc pendant une période, on est très vulnérable. Mmh. Et puis, on arrive à faire finalement de cette fragilité une force, en la remettant en perspective, mais donc pendant une période, en tout cas, ça demande une forme de courage, d'oser faire ça, et aussi une forme de chance d'être en présence des bonnes personnes qui, à ce moment-là, auront la bienveillance de ne pas en user ou en abuser. Et donc, le fait d'arriver à mettre à nu cette fragilité devient une richesse et permet d'arriver à un degré de communication et d'interaction avec les femmes qui, je pense, permet d'accéder à un niveau supérieur d'intimité, mmh. où on est plus proche. Et donc, cette fragilité des hommes, je pense qu'il y a pas mal de femmes qui y sont sensibles aussi. Et ça donne un degré d'intimité supérieur qui, pour moi, est un des intérêts du polyamour. Qui est donc, si on était dans un cadre purement machiste, où l'idée est de collectionner les conquêtes, etc., bon. Je pense que ça peut, à très court terme, avoir son intérêt, mais à moyen et à long terme, on n'arriverait pas à ce degré d'intimité, cette découverte finalement intime de l'univers de l'autre, qui pour moi est la vraie richesse du polyamour. Et pour ça, pour qu'il y ait cette découverte de l'autre, il faut une mise à nu, que les femmes font plus naturellement, mais pour que ça soit dans les deux sens, il faut que l'homme s'y mette aussi. Mmh. Et pour l'homme, c'est éventuellement possible après plusieurs années de vie commune avec son conjoint monogame, mais dans le cas de relations plurielles, pour y arriver, je dirais, relativement rapidement, j'ai l'impression que ça demande justement cette aptitude d'être capable de se livrer et donc d'avoir cette part féminine qui vous offre cette possibilité justement d'oser plus facilement se mettre à nu, ce qui permet, je crois, un échange, un degré de profondeur inégalé qui peut aller dans les deux sens. Et s'il va dans les deux sens, j'ai l'impression une vraie richesse qui peut se créer, où et l'homme et la femme sont au même niveau de complétude et peuvent vraiment échanger et s'enrichir mutuellement.
Donc je serais peut-être tenté alors de faire un grand saut comme ça et avec un peu d'audace, de me dire, tiens, mais dans le fond, est-ce que la période, bon, je vais faire un parallèle un peu rapide comme ça, un peu violent, mais monogame, machiste, parce que j'ai quand même envie de les mettre dans le même sac, avec peut-être l'architecture classique monothéiste aussi, quelque part, impérialisme aussi, peut-être. Mais donc, est-ce que dans les anciennes croyances du type déesse-mère, mais alors là, on fait un grand saut en arrière, hein, est-ce qu'il n'y aurait pas comme une sorte d'héritage inconscient qui serait en chacun encore de nous, comme une petite germe, et que le polyamour tenterait comme ça, avec beaucoup de... d'audace peut-être, d'aller réveiller un petit peu comme ça des vieux ancrages sur lesquels l'humanité s'est quand même aussi un peu construit, parce que si on parle de la croyance de la déesse mère, c'était aussi de la vénération, évidemment, qui pouvait peut-être amener aussi d'autres formes d'autorité, hein, envers les hommes, enfin des femmes vers les hommes. Mais je pense malgré tout que il y a peut-être encore des choses à aller puiser dans tout ça, et peut-être tenter des liens impossibles avec le polyamour. Qu'est-ce que tu en penses?
Mais c'est vrai que c'est un peu la théorie de Paul Salomon.
Oui, c'est ça.
J'avoue ne pas avoir la moindre idée si elle est fondée ou pas. Mais c'est clair, d'une certaine façon, le polyamour est en tout cas dans ma conception, une façon d'essayer de remettre en exercice, en tout cas, une égalité homme-femme. Hein, est-ce que, bon, à l'époque de la déesse mère, donc on parle d'il y a quelques millions d'années, c'était plutôt une prééminence de la femme. Donc l'idée n'est pas ici de remettre une prééminence de l'un ou l'autre sexe, mais plutôt une réelle égalité, une réelle complémentarité. De nouveau, je peux faire un lien avec le tantra, où le tantra est aussi une des rares écoles philosophiques, si on peut l'appeler comme ça, qui met non seulement la femme sur le même pied que l'homme, mais voire un pied au-dessus, où il considère que c'est vraiment la femme l'initiatrice. Dans quasi tous les domaines, celle qui est à l'origine, c'est la femme.
Mais par exemple, on parle de la culture. Moi, j'ai vu un reportage sur l'Inde, et une dame disait la culture, c'est féminin, jusqu'au XXe siècle, où il y a la mécanisation. Et c'est un homme avec des gros muscles qui vient sur un tracteur, il met du pétrole, ça fait du bruit, ça pétarade. Mais au départ, c'est des femmes qui chantent dans les champs et qui s'aiment. Donc ça fait un peu lien avec ça, sans doute.
Oui, tout à fait. Mais enfin, en tout cas, de mon expérience personnelle, si je vois sur ces 3-4 dernières années, les personnes qui m'ont fait vraiment évoluer, qui m'ont apporté des choses, c'est des femmes.
C'est ça.
Qui m'ont fait avancer. En tantra, mon initiatrice, qui est quelqu'un de magnifique, c'est une femme. Donc, peut-être que je suis dans une phase où je suis plus réceptif pour l'instant aux amitiés féminines, mais c'est vrai que ce sont des femmes qui m'ont apporté. Et mais pour qu'elles m'apportent, il faut que j'ai une réceptivité. Et donc que j'ai pu me mettre en concordance, je dirais, avec leur sensibilité. Et donc, ma part féminine a dû, à un moment, se développer aussi un peu. Et donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important d'arriver à ce que je sois dans cet état de réceptivité qui n'est pas un état de passivité. C'est pas la même chose. C'est un état actif, mais de recevoir. Donc l'homme est plutôt il donne, c'est lui qui est actif, qui ramène la pitance à la maison, etc. Ici, c'est justement un peu différent. Je vais pas dire que c'est se faire violence, mais c'est d'accepter d'être, celui qui reçoit. Et c'est vrai que c'est pas l'état naturel de l'homme, enfin, à mon avis, à tort.
La transmission de la culture, tu veux dire.
De la transmission de tout. Enfin, oui, ça peut, c'est la culture, mais c'est aussi de la transmission des caresses, de l'émotion, de l'amour. Les hommes ont l'habitude d'être conquérants.
Pénétrant,
clairement. Et donc ici, c'est d'accepter que ça puisse aller dans l'autre sens aussi, que la femme a autant à apporter et nous hommes on a autant à recevoir. Et
il n'y a qu'une carapace qui est là.
Ouais, mais donc c'est pas que l'homme n'a plus à donner, hein, mais d'arriver à ce que ça puisse aller dans les deux sens. Que par exemple, moi dans mes massages tantriques, donc j'en fais de façon régulière, et alternativement, je suis la personne massée ou je suis celui qui masse. Et donc le fait de faire les deux, je trouve, est une grande richesse, parce que on apprend d'un côté à être dans le don et d'un autre côté à être dans le recevoir. Et c'est ces deux pôles qui pour moi sont nécessaires. Si on est uniquement dans l'un, on peut se perdre. Et savoir avoir ces deux possibilités est quelque chose de très enrichissant. Parce que je reviens à la question du don. En tant qu'homme, a priori, on est celui qui donne, qui agit. Et je me suis rendu compte que donner n'était pas quelque chose de simple. Parce que c'est très difficile de donner juste.
C'est ça.
C'est-à-dire, souvent, en fait, qu'est-ce qui motive le don? C'est quelque chose d'assez égocentrique ou égoïste. C'est-à-dire, on donne pour que l'autre nous soit
C'est ça.
redevable, pour avoir bonne
Tout un
conscience.
mécanisme inconscient.
Voilà, parce que simplement notre éducation nous a appris qu'il fallait faire comme ceci ou comme cela. Mais le véritable don altruiste n'est pas si
Bien
évident.
sûr.
Et ça m'est arrivé de donner, mais sans me préoccuper de savoir si la personne avait envie de recevoir, si je donnais la bonne chose, et donc finalement d'imposer mon don. Que l'autre ne voulait pas forcément.
C'est ça.
Et donc j'ai eu un ou deux retours de flamme, je dirais bienveillants, mais qui m'ont appris à comprendre que donner n'importe comment à tout prix, et finalement plus pour être. Enfin, il m'arrivait de donner pour rester dans le jeu, c'est-à-dire pour rester présent dans la vie de l'autre, pour rester.
Oui.
Pour continuer à avoir une
C'est des
place.
mécanismes complexes aussi, hein.
C'est effectivement très, 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 très sophistiqué. Mais donc, je me suis rendu compte effectivement, c'était pas nécessairement souhaité par l'autre. Enfin, c'était une façon de s'imposer. Et c'est inconscient, hein, mais c'était pas nécessairement une bonne idée. Et qu'il fallait réussir à finalement, à décoder ce mécanisme. Et à se rendre compte, mais pourquoi est-ce que je fais ça en fait? Est-ce que c'est pour l'autre? Est-ce que c'est pour moi? Et puis depuis lors, je suis beaucoup plus mesuré et finalement, je donne soit si la personne m'en fait la demande ou si j'ai vraiment le sentiment que ça peut être apprécié, mais je suis beaucoup plus prudent. C'est-à-dire, je ne m'impose plus, je n'impose plus mon don de la même façon. Et maintenant, si je le fais, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus altruiste, plus gratuit. Ce qui était sans doute moins le cas avant.
Est-ce qu'alors on peut parler peut-être, ça me vient comme ça à l'esprit, qu'il y a un rapport à la lenteur qui pourrait être intéressant, parce que je ne sais pas, ou en tout cas la perception de ce que reçoit l'autre demande sûrement de l'observation et certains moments peut-être plus lents qu'invite aussi le tantra, peut-être, des choses comme ça.
Oui, on pourrait dire ça. C'est vrai que le tantra est effectivement une école de la
C'est ça,
lenteur.
de ce que j'ai
Oui,
compris.
en ce sens que on distingue, c'est vrai qu'on distingue dans le tantra la spontanéité de l'impulsivité. Ça, c'est un élément qui m'avait marqué. Donc l'impulsivité, c'est quand on fait quelque chose sous le coup de l'émotion, de façon assez brusque et souvent violente, ou simplement c'est quelque chose qui nous échappe. Donc ça peut être une parole qui sort. Et donc ça, c'est négatif dans la mesure où c'est quelque chose qui n'a pas été fait en conscience. C'est-à-dire, ça nous a échappé, il n'y a pas eu de réflexion par rapport à ça. C'est gratuit. Par contre, la spontanéité, c'est quelque chose qui sort de façon libre, en ce sens que ce n'est pas notre éducation, notre ego, notre cerveau qui a mis des barrières, des filtres et qui a dit, par exemple, ne fais pas comme ceci parce que tu vas être ridicule, tu vas être jugé, ça se fait pas. Donc, ça sort de manière spontanée, mais en conscience. Et en conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis présent à moi-même. C'est-à-dire que je suis à l'écoute de moi, de mes émotions, et donc ce qui va sortir, sortirait de façon juste. Sortirait de façon juste, mais libre. C'est-à-dire que je ne vais pas être contraint par tout l'environnement. Donc c'est généralement quelque chose de beau qui sort. ça peut être dans la danse. Je vais danser de façon spontanée, j'aurai un geste spontané, donc il sera souvent très beau parce que tout à fait naturel, mais je serai ancré en moi, je serai centré, donc ce sera pas quelque chose de désordonné qui va ressembler à rien. Donc je serai, il y aura vraiment une cohésion par rapport à moi, par rapport à mon corps. Donc il y aura une harmonie évidente qui va sortir. Et donc dans le tantra, enfin, on appelle souvent le tantra, c'est l'art de la conscience, de la présence à soi. Donc ça veut dire que on est ancré en soi, on est à l'écoute de ses sentiments, de ses émotions. Donc ce qui est aussi très présent, c'est quand on a une émotion, c'est-à-dire qui peut être la jalousie, la peur, la colère, bien en tantra on n'exclut rien, donc on accueille ces émotions, donc on ne les rejette pas, on ne dit pas la jalousie c'est pas bien, il faut rejeter, c'est une mauvaise émotion, c'est une émotion négative donc il ne faut pas l'écouter. Non, en tantra on considère qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion, toutes les émotions sont là, si elles sont là c'est qu'elles ont une raison d'être, elles ont une légitimité, donc la nier ne va pas la régler. Généralement quand on refoule une émotion, eh ben, elle va rester là, elle va ressortir de façon impromptue d'une façon ou d'une autre, ou elle va s'aggraver pour dégénérer en névrose, ou enfin, donc forcément elle va nous retomber dessus de façon amplifiée d'une façon ou d'une autre. Donc la meilleure façon de régler une émotion est de l'accepter, de l'accueillir comme étant légitime, et après d'essayer de la comprendre. Et donc, ce qu'on conseille le plus souvent, c'est de prendre une sorte de recul par rapport à l'émotion, donc de considérer qu'elle fait partie de soi, donc de ne pas faire une scission, de dire c'est pas moi, c'est n'a rien à voir. Non, au contraire, elle est là, mais d'être comme un peu comme un observateur de soi-même, et donc de regarder l'émotion. Un peu comme un nuage qui passe dans le ciel, et de se dire, ben voilà, je regarde mon émotion, tiens, elle est comme ceci, d'où elle vient, et de se dire, ben, pourquoi est-ce qu'elle est là ? De réaliser que comme un nuage, elle finit par passer, donc elle n'est pas... cette émotion, ce n'est pas moi non plus. Elle est là, mais elle bouge, elle évolue, elle finit par passer, par disparaître, donc de ne pas m'identifier à l'émotion. De se dire, bon, ok, elle est là, je ne la juge pas, mais d'essayer de la comprendre. Et je dis, tiens, comment est-ce qu'elle est arrivée là ? Pourquoi est-ce que tel événement qui paraît anodin m'a mis dans un tel état ? Et donc, d'avoir un recul par rapport à ça. Et ce recul, parfois, permet de comprendre de l'émotion, de voir d'où elle vient, et souvent de la transcender. Et d'en faire finalement quelque chose de positif. On considère aussi que, en fait, dans tout événement, dans toute émotion qui a priori semble négative, il y a du positif.
C'est ça.
Et que si on réussit à la comprendre, à la transformer, on peut la transcender en quelque chose de beau, en quelque chose de bien. Donc l'image habituelle, c'est que la chenille peut devenir un papillon, la rose éclos sur le fumier, enfin ce genre de cliché lieu commun, mais qui est que s'il n'y avait pas eu le fumier, la rose serait pas là. Et donc il faut pas nier ou rejeter le fumier parce qu'il est indispensable pour arriver à la rose.
C'est ça.
Et donc, il ne faut pas s'arrêter au fumier. Si on se bloque à ce stade-là, ce n'est pas idéal non plus. Mais il faut l'accepter pour arriver au degré supérieur qui est la rose.
Mais comment faire alors ? Parce qu'on est quand même dans une société qui condamne beaucoup. À l'école, il y a le bic rouge qui souligne les fautes. Il y a quand même tout ça qui est à démonter alors.
Mais ou à
questionner, enfin.
Oui, effectivement, il faut arriver à remettre en perspective et avoir le recul personnel. Pour moi, rien n'est à condamner totalement. Donc, dans tout système, il y a des choses bonnes. Et moi, je ne suis pas adepte à 100% d'un système, bon, qui soit le tantra ou n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est l'effet de la génération zapping dont nous sommes, mais j'ai l'impression que il peut y avoir du bon à picorer dans beaucoup de choses. Et donc, c'est la chance et la liberté unique, je dirais, qu'on a. J'ai l'impression pour la première fois dans notre période, qui est que chacun est libre de créer son propre système, sa propre échelle de valeur, et donc finalement de prendre à gauche, à droite, ce qui lui semble bien pour lui, et de se créer un peu un modèle à la carte, qui ne convient pas nécessairement pour le voisin, mais qui pour soi-même est bon. À montrer ses possibilités et dont on, enfin, qui peut évoluer, dont on peut changer, etc., au cours des années, mais qui pour soi est bien. Et donc, c'est que le tantra, pour moi, apporte des choses importantes, qui est donc cette capacité à ne rien réprimer a priori, de rien rejeter, rien condamner, mais au contraire, d'accepter. Enfin, j'ai le sentiment d'être encore au milieu du chemin. Donc, il y a des choses en moi que je n'aime pas, mais je ne les condamne pas.
C'est ça.
Je me fais simplement le constat. Tiens, ben, j'en suis un peu là maintenant. Ben, tiens, il y a telle chose où j'aurais souhaité être un peu plus loin. Mais bon, il se fait que je suis maintenant là. Bon, c'est comme ça, point. Et donc, ben, je sais, ben, que j'ai encore ça à progresser. Donc, je dirais que j'ai aussi de la bienveillance par rapport à moi-même. Donc, je ne me condamne pas, je ne me dis pas, mais
Ouais,
tu n'es.
alors tu pourrais être tenté de le faire. Hein.
Oui, c'est clair. Et beaucoup de choses nous poussent
Ben oui.
à être dur avec
Ouais,
soi-même.
c'est ça.
Mais je pense que ce n'est pas une solution. Mais au contraire, je me dis, bon, ben. Je vois les beaux côtés aussi, donc j'ai bien évolué sur certaines choses. Il y a d'autres points pour lesquels, ben, je sais que j'ai encore des choses à améliorer, mais je me vois avec bienveillance en me disant, ben voilà, je suis au milieu du chemin, il y a des choses qui ont bien progressé, d'autres moins, et ben, on continue à avancer. Mais soyons lucides, je sais pour tel point, je ne suis que là. Et voilà, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est simplement une réalité. Et donc, ben, faut en être conscient, c'est la meilleure façon de progresser. Et donc, ben, de continuer à avancer. Et donc, ben, voilà, je sais, entre guillemets, j'ai des points plus forts, des points plus faibles. Et faut en être conscient. On revient à connais-toi toi-même. Donc, on repart, c'est Socrate et tout ça. Et où c'est effectivement, ben, on a ses points forts, ses points faibles. Mais globalement, je pense qu'on est tous dignes d'être aimés. Et je crois que c'est un des gros défis, et je vois ça en polyamour, c'est de s'aimer soi-même. C'est, je crois,
C'est
fondamental.
un socle.
C'est une base minimale, parce que je suis persuadé que si on ne s'aime pas soi-même avec bienveillance, on ne peut pas arriver à bien aimer les autres. Parce qu'on va arriver avec tellement de névroses, de manques, de besoins, de choses à combler, que forcément les relations vont être perverties, ne vont pas être
C'est
naturelles,
ça.
faciles et fluides. Et donc, il y a ce travail sur soi-même. Où chacun doit prendre conscience de ce qu'il est vraiment digne d'amour, et avec ses qualités, ses défauts. Enfin, moi, je dis, les gens que j'aime, je les aime en globalité. J'ai conscience de leurs points forts, de leurs qualités, de leurs faiblesses. Et c'est parce que je suis conscient de leurs faiblesses que je les aime d'autant plus, parce que je sais que l'amour que j'ai pour eux est un amour en connaissance de cause, un
Puis en
amour.
plus, une faiblesse pour toi ne sera peut-être pas une faiblesse pour un autre.
Bien sûr, effectivement,
En plus.
ce qui peut l'être pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Mais c'est cette idée que on aime les gens comme ils sont.
C'est
Bon, ce qui n'empêche pas de progresser, mais que je n'ai pas le besoin ou l'envie de dire aux gens que j'aime, j'aimerais bien que tu changes sur tel point ou tel point. Ça, c'est peut-être quelque chose qui vient avec la maturité, qui est de se dire, finalement, tout le monde est déjà vraiment beau comme il est, et qu'il n'y a pas d'impératif de changer à tout prix, de les faire changer à tout prix. S'ils progressent encore, ben c'est magnifique, c'est mieux, c'est bien. Mais que chacun mérite vraiment d'être aimé pleinement comme il est maintenant. Et qu'il faut pas dire, ben j'aimerais que tu sois plus comme ceci, que tu sois moins rigide sur ceci, que tu perdes du poids cela, que tu machins. Enfin, c'est pas ça qui est important. Je veux dire, les gens sont beaux comme ils sont. Mais il faut arriver à percevoir cette beauté, à percevoir cette magnificence. Non, de nouveau, je reviens sur le tantra parce que bon, c'est un peu mon dada du moment. Je dirais qu'il y a en chacun une part de divinité, une part de beauté absolue. Et tout l'art est d'arriver à voir cette part, à mettre en évidence cette part de beauté. Donc c'est pas l'idée n'est pas d'occulter, de nier que il y a des choses moins belles en chacun, mais de voir qu'il y a une part de beauté réelle en chacun. Et par exemple, il y a ce qu'on appelle la salutation du cœur, qui est donc le namasté donc qui se pratique chez les bouddhistes, qui est en fait une salutation où on honore ce qui est beau chez l'autre. En disant, vraiment, j'honore chez toi ce qu'il y a de magnifique, ce qu'il y a de la parcelle de divin, qu'il y a vraiment de beau. Donc c'est de reconnaître vraiment qu'il y a des choses splendides chez chacun. Et je crois que tout le monde a cette part. Le tout est d'avoir le regard pour le voir, pour l'admirer. Et ça, c'est une question de tournure d'esprit, finalement. Et donc, ça revient finalement à cette idée de bienveillance que j'aime beaucoup, qui est, c'est pas d'être naïf, de se dire tout le monde il est beau, il est gentil, c'est pas de l'angélisme béat, mais de percevoir et de donner à chacun la possibilité aussi d'exprimer cette part de beau, de lui laisser la possibilité d'exister. Donc, il y a cette beauté chez chacun et de s'en rendre compte. Et en fait, le monde est tellement plus magnifique si on est conscient et si finalement, si on voit cette part de beau, le monde devient directement beaucoup plus beau parce que les gens deviennent. C'est pas qu'ils deviennent plus beaux, mais on perçoit ce beau chez chacun et il y a une sorte d'ouverture qui se crée, qui appelle la réciprocité. Donc, j'ai constaté ça depuis quelques années. Avant, j'étais quelqu'un de plus fermé.
C'est ça.
J'étais plus timide, j'étais pas nécessairement hyper bien dans ma peau, j'étais pas ouvert. Et j'ai constaté que les gens venaient peu vers moi. Donc, avant de rencontrer mon épouse, je peux pas dire que j'ai eu une vie sentimentale hors du commun. Vous allez être très frustré. Hein. J'étais convaincu. Je suis quelqu'un de bien, personne ne le voit, quoi. Ça m'énervait beaucoup en me disant, merde, personne n'est capable de voir toute la beauté en moi. Et donc, ça fait un peu le Jean Genie incompris, qui finit par se murer dans sa tour d'ivoire, ce qui est un réflexe adolescent un peu plus typique, mais pas moins stupide. Et en fait, avec les années, on se rend compte que si on rayonne finalement cette bienveillance, cette ouverture, les gens viennent tout seuls. Ils sont attirés par ça, ils viennent vers vous. Et je vois depuis que je suis plus ouvert à ça, ben je rencontre du monde, j'ai fait des belles rencontres. Et enfin, je vais pas dire de façon exponentielle de plus en plus, mais presque où en 6 mois, j'ai rencontré plus de chouettes personnes que à la limite en 10 ans de mon adolescence.
Et donc c'est un beau message pour la jeunesse aussi qui pourrait se dire, tiens, mais vieillir, ça a l'air un peu nul, enfin c'est pas terrible. Et toi, tu pourrais donner un message d'espoir là-dessus.
Si, bon, si tu veux, oui.
Ben oui.
On peut voir. Enfin, c'est pas une question de vieillir.
Pourquoi pas?
C'est pas une question de vieillir. C'est une question d'évoluer.
Voilà.
Donc j'ai vu des
Ben, pour
gens.
évoluer, il faut du temps, donc il faut des années, c'est pour ça que je parle du mot vieillir.
Ça dépend des gens.
Ouais.
J'ai rencontré des personnes qui, effectivement, à 20-25 ans, j'avais l'impression, avaient atteint un degré de maturité qu'il m'a fallu 15 ans de plus à acquérir. Donc c'est très variable de l'un à l'autre, mais effectivement, j'ai l'impression, en tout cas en ce qui me concerne, que l'évolution, la maturité, a apporté une paix intérieure, une ouverture, un dialogue aux autres, qui pour moi est le jour et la nuit. Entre moi à 20 ans et moi aujourd'hui, c'est clairement plus du tout la même personne, et je suis clairement infiniment plus épanoui, plus heureux, plus ouvert aujourd'hui que je n'étais à 20 ans.
C'est ça.
Ça, clairement. Et ça, c'est bon, c'est mon cheminement personnel. J'espère à chacun à sa façon. Parce que moi, j'ai ma petite voie personnelle, mais qui n'est pas nécessairement celle qui convient à tout le monde. Hein. Et d'autres peuvent. Enfin, il y a 10 000 façons d'évoluer. La mienne en est une, mais c'est pas la clé, c'est pas
Bien sûr, bien
la
sûr.
recette. J'ai vraiment le sentiment d'avoir encore la vie entière, le monde entier qui s'ouvre, et d'être vraiment aux prémices d'une évolution, et ce que je trouve tout à fait magnifique et enthousiasmant. Et ne sachant pas du tout où ça va aller. Donc, certains pourraient s'inquiéter, dire on n'a pas la moindre idée de la direction. Moi, c'est quelque chose qui ne m'angoisse pas, et plutôt qui d'un certain côté, m'attire, qui est justement cet inconnu qu'a priori je devine bienveillant, que je devine chouette, mais que je ne connais pas. Et quelle que soit la façon dont ça évolue, j'ai l'impression que ce sera bien. Et même s'il pourra y avoir des côtés, des passages moins rigolos, ça peut arriver. Mais qu'il y aura cette faculté de rebondir, d'en tirer le positif, et d'en faire quelque chose de beau, et de continuer à avancer, et de tirer une expérience, de s'enrichir des moments plus difficiles ou douloureux. Pour mieux se connaître et avancer vers quelque chose de chouette.
Eh bien, cher Bob, je trouve ça assez puissant, ces dernières paroles. Et je voudrais vraiment te remercier de ce bel échange.
Je
On
t'en
fait
prie.
un beau petit voyage tous les deux, il me semble, hein. Et je vais quand même te retendre une dernière fois le micro, si jamais, voilà, tu avais une dernière petite envie comme ça à diffuser.
Ouais, mon envie serait d'abord de remercier toutes les belles personnes qui, je crois, se reconnaîtront, qui depuis 3 ans environ, et plus loin éventuellement, m'ont vraiment aidé, m'ont aidé à mûrir, ont partagé avec moi leur univers et m'ont permis de progresser. J'espère les avoir aidés également à ma façon. Et donc, l'ouverture aux autres, enfin, aimer. Donc, c'est vraiment cet amour, cette envie de faire participer à d'autres, cet amour, ce qui nous plaît, de partager, de. C'est l'échange, le partage, d'arriver avec bienveillance, d'offrir, tout ça est quelque chose, je trouve, de tellement beau. Et aussi un truc qui m'a frappé lors des derniers cafés qu'on a fait, c'est les câlins. Je trouve ce côté d'arriver à s'abstraire de nos éducations, des contraintes sociales, des rivalités hommes-femmes, c'est-à-dire d'arriver à faire un câlin sans qu'il y ait de connotation sexuelle. De se dire, si j'accepte un câlin, ben ça veut dire qu'il voudra aller plus loin que
Oui, bien
ceci,
sûr.
qu'il y a un message qui est mal perçu. Mais donc, que ça soit d'arriver à ça soit cette fluidité, ça soit simple, ça soit beau, qu'on puisse se prendre dans les bras, échanger de la chaleur humaine,
Voilà, c'est ça.
simplement, de façon enfin, normale,
Ben oui.
sans ambiguïté, sans arrière-pensée, qu'on puisse arriver à ça, je trouve que c'est très prometteur pour l'avenir. On retrouve un contact, une intimité qui, je crois, a fait cruellement défaut pendant longtemps.
Ça a été confisqué, peut-être même, non?
Sans doute. Mais donc d'arriver à retrouver ce niveau de proximité des corps et des âmes, mais sur un plan différent du plan sexuel,
C'est ça.
et qu'on puisse retrouver ce degré d'intimité, de simplicité, d'échange, est quelque chose, je trouve, de magnifique et que j'ai vraiment envie d'explorer et de promouvoir. Merci à toi.
Merci aussi.
Les musiques qui illustrent cette émission sont Ceste Ocho du groupe Suerte pour le générique début et fin. Toutes ces musiques sont disponibles sur le site des musiques libres jamendo.com. Sur le site de polyamour.be, vous trouverez toutes les précieuses informations relatives aux amours pluriels, comme la possibilité de réécouter toutes les émissions Polyplaisir des Utopies en téléchargement ou en écoute sur un lecteur intégré à la page de l'émission. Inscrivez-vous aussi au forum pour connaître les détails des rencontres Polycafé qui ont lieu chaque premier mercredi soir du mois à la maison Arc-en-Ciel, rue du Marché au Charbon, 42 à 1000 Bruxelles. C'est un bar associatif à deux pas de la Grand Place. Vous y venez de plus en plus nombreux, l'ambiance y est chaleureuse. C'est un endroit ouvert à tous, que vous soyez dans une relation polyamoureuse ou non, vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle également les dates de diffusion sur Radio Campus, le deuxième mercredi du mois à 21h30, et en rediffusion le quatrième jeudi du mois à 16h sur 92.1 MHz à Bruxelles. Cette émission est produite sous licence Creative Commons 2.5. Polyplaisir des Utopies, c'est aussi la joie d'émettre sur cette radio intelligente et curieuse qu'est Radio Campus. Je vous retrouve le temps d'une traversée dans quelques semaines sur l'autre rive, celle des imaginaires collectifs, celle des polyplaisirs des Utopies.